Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Il est 16h, on est lundi et c'est l'heure du carré des artistes sur IDFM Radio, 98 FM dans le 95 et ses alentours, sur le DAB+ en Ile-de-France, IDFM98.fr sur le site internet et évidemment l'application Android IDFM Radio. Je suis Reda, comme d'habitude tous les lundis on se retrouve avec un invité. Aujourd'hui, je sais même pas comment expliquer à quel point je suis comme un fou de recevoir l'invité qu'on reçoit aujourd'hui. Vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure des semaines, mais aujourd'hui je tenais à recevoir cet invité là parce que il représente une énorme partie de ma vie. Peut-être pas par sa personne, mais en tout cas par ce qu'il représente. Aujourd'hui, il est commentateur de catch pour le WWE Network, la plateforme de streaming numéro 1 de la plus grande compagnie de catch au monde. Et il est avec nous sur IDFM Radio. Il s'appelle Monsieur Nadir Mohamedi. Comment ça va?
Ça va très bien et toi, Reda?
Ben ça va super super bien. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Ça me touche énormément.
Merci à toi de m'inviter. Le carré des artistes, le 95, la région parisienne. Mais je suis content d'être avec toi.
C'est gentil. T'es à Marseille là, c'est ça?
Alors, actuellement, où je te parle, où je suis à Marseille. Lundi, 16h, je suis à Marseille.
Ramène-nous le soleil, je t'en supplie. Si tu reviens par là.
T'en fais pas, je te ferai un petit colissimo, un petit colis Amazon, un truc.
Ah, c'est génial, on va passer une heure ensemble, Nadir. On va parler un peu de ton parcours, un peu de tout ce que t'as fait. Et on va commencer par le commencement. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Tu es né où? Tu as grandi où? Parle-nous un peu de toi, de tout ce que tu as fait avant d'être
tout
là.
Tout ce que j'ai fait, carrément.
Non, mais en tout cas, où est-ce que tu as grandi? D'où tu démarres?
D'où je viens? Alors c'est très simple, Nadir Mohamedi. J'ai grandi dans le 92 Sud, donc dans les Hauts-de-Seine. J'ai fait mes études dans le 92 également, après sur Paris, après à Marseille. Et maintenant, je suis entre le Paris, de temps en temps Marseille, et le Canada, voilà. Donc, c'est un petit peu le parcours. Mon âge, je suis en début de trentaine.
Ça va.
Et non, ouais, voilà, après parler de moi comme ça, faire ma pièce d'identité. Je suis né à Paris 14e.
T'es né Paris 14. Ok. Donc, t'es un francilien. À la base. Avant d'aller voler le soleil à Marseille, t'es de chez nous.
Tout, bien sûr. Je resterai fidèle à mon 92 et à la région parisienne.
On va en parler du 92. Parce qu'il y a une histoire un peu marrante avec le 92 que j'ai trouvé sur Internet en faisant mes petites recherches. Aujourd'hui, t'es commentateur de catch pour la WWE. Mais comment c'est né tout ça? Toute cette passion autour du catch?
Alors en fait, j'ai commencé à regarder du catch quand j'étais petit. Je crois que c'était avec de la famille. Et après, je me suis retrouvé devant du catch tout seul. Parce que j'avais la grande chance à l'époque d'avoir le câble. Le câble, c'était avant la TNT carrément. C'était
ouais,
en 90-99. Et en gros, il y a du catch qui venait d'arriver sur RTL9. Mais je me souviens, aux alentours de 4-5 ans, j'étais tombé sur du catch sur Canal. Mais tout seul sur RTL9, 99-2000. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai regardé ça et après tout le reste, le football, le basket, j'ai tout mis de côté. Et je me suis impliqué, j'ai regardé ça direct et je suis tombé dedans.
Regardé que ça, quoi?
Bah ouais. Après, bien sûr, quand il y avait des Coupes du Monde, des trucs, je regardais. Ouais. Mais je suis tombé à court direct. Mais dès que j'ai regardé les 5 premières minutes, direct, j'ai accroché.
Tu te rappelles du premier souvenir que t'avais? Le premier truc qui t'a marqué?
Alors de mémoire, quand j'étais tout petit, je crois que c'était Papa Chengo sur Canal.
Ouais.
Et après, la WCW, donc c'est une fédération qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui était diffusée tous les jeudis soirs à 22h30 sur RTL9.
Ouais.
Donc le câble, c'était la WCW. Et les premiers catchers dont je me souviens, c'était Sting, Goldberg, Kevin Nash,
wow.
Hulk Hogan.
T'as grandi dans la belle époque, en vrai. T'as grandi dans la belle époque.
Au début des années 2000, pour cette structure, c'était pas la grande époque, puisqu'ils ont fermé leurs portes un an après.
C'est vrai.
C'est arrivé au pire moment, apparemment.
C'est vrai. Mais c'est vrai.
C'est le moment que je préfère.
Ok, mais après c'est le début, c'est là où t'es tombé amoureux finalement de la discipline. Comment expliquer ? Alors du coup, de ce que j'ai compris dans différentes interviews que j'ai vues, toi, plus que regarder le catch, t'en as fait ?
Ouais, exactement. Et... Exactement, j'en ai fait en 2003.
Donc j'avais très tôt.
Ah ouais, très très tôt. Dès le début des années 2000, je regardais. Et après, je me suis renseigné, Internet, si ça, je me suis dit, où est-ce qu'il y a une école de catch? Et j'ai regardé, et il y en avait une. Donc moi, je suis dans le 92 Sud. Et il fallait que j'aille jusqu'à Farmoutier, dans le 77. Ce qui fait que je partais à 13, juste après le collège. C'était mercredi après-midi, 12h30. Et j'allais à Porte d'Orléans, donc à Paris. Il y avait l'entraîneur de catch, qui après, on allait à Porte Dorée récupérer d'autres élèves. Après, pour éviter les bouchons, on partait vers 14-15 heures par Moutier et l'entraînement, il était à 18 heures.
Ah, c'est bon ça.
On allait au centre commercial, on mangeait les trucs, on attendait, on poireautait. L'entraînement, il faisait 18-20 heures. Donc, de Farmoutier, on redescendait jusqu'à Porte Dorée et après Porte d'Orléans. Et j'étais chez moi dès 22h30.
Ah, c'est bon ça. Comme quoi, la passion, ça peut mener loin. Hein. Ça peut mener très, très loin.
Tu fais des trucs de débile, surtout. Tu vas jusqu'à Farmoutier.
Non, mais c'est vrai que...
L'après-midi.
Il y avait pas la... peut-être que je me trompe, hein, mais il n'y avait pas l'APC à Nanterre avant? Pas à ce moment-là?
À l'époque, ils n'avaient pas leur école. En 2003, ils n'avaient pas encore leur école.
Mais je suis bien renseigné. L'APC, c'est à Nanterre.
Oui.
Okay.
Ouais, c'est bien ça. C'est à Pablo Picasso... Au gymnase, j'ai oublié le nom du gymnase, mais au moins t'as pas besoin d'aller jusqu'à Farmoutier, quoi.
Je pense que ça aurait été mieux pour toi, mais enfin ça te crée des anecdotes qui permet que tu puisses les raconter aujourd'hui. Il y a une anecdote assez marrante que je t'ai entendu dire un jour, c'est que à force des entraînements, tes profs pensaient que tu te faisais battre par tes parents.
Ouais, je te jure que c'est... tu t'es bien renseigné.
Je travaille.
Non, c'est vrai. En fait, je me souviens de la première remarque, paix à son âme, c'était Madame Chomas, une prof de musique, je faisais de la flûte avec elle, et en fait, j'avais des bleus sur les avant-bras. Parce qu'en fait, quand on chute dans le catch, on met un peu les bras.
Ouais.
Et donc, on claque avec ses bras, donc j'avais des taches sur les avant-bras des bleus, quoi.
Mm-hmm.
Et vu que j'étais en cours en t-shirt, il y a eu une sorte de signalement en mode mais pourquoi t'as des bleus nazir, est-ce que tout se passe bien à la maison,
le signalement à la DAS pour rien.
Et j'ai dit non, je fais du catch tout simplement. Et quelques années après, pour ajouter de l'eau à ton moulin, il y a eu un reportage, mais ça on en reviendra peut-être après si les questions évoluent dans ce sens là il y a eu un reportage sur TF1.
Ouais.
On me voit catcher, on me voit m'entraîner, et donc là tout de suite, ça a effacé les doutes, mais ça, c'était quelques années après.
Ah, donc en vrai, merci à TF1, en gros. Parce que sinon, ça aurait pu aller loin, cette histoire.
Ouais, merci Claire.
Ah non, ça c'est bon. Ah non, ça c'est une belle anecdote. Du coup, tu continues cette école de catch là, c'est ça? Et t'en fais pendant combien de temps? Parce que là, quel âge, quand t'as commencé? T'as 14 ans?
En 2003, j'ai commencé en septembre 2003, j'avais 13 ans.
T'avais 13 ans?
Vu que j'étais assez grand et assez costaud, il m'a dit, vas-y, c'est bon. Je suis parti voir un médecin, il m'a dit, ok, pas de souci. Et quand le médecin, j'ai dû faire des entraînements de catch, il s'est dit, bon, c'est pipo, allez, fonce.
Ouais.
Donc, j'ai fait ça pendant un an. J'ai fait ça, donc, de septembre à juin. Après, en toute transparence, ça me saoulait d'aller jusqu'à Farmoutier.
Mais c'est tellement compréhensible.
C'est compliqué. C'est compliqué. En plus, ma pauvre mère, la pauvre, elle venait me chercher à Porte d'Orléans à des 22h, 22h30.
Aïe, aïe, aïe.
Bref, c'était une tannée. Donc, j'arrête entre 2004 et 2005. Mais je continue à regarder le catch. Dès que je scrutais sur Internet ce qui se passait, s'il y avait du catch plus proche chez moi, etc., etc. Et après, j'ai repris un peu plus tard avec la Fédération Française de Catch Professionnel.
Oh, ok, d'accord. Ok, très bien. Et donc, t'as arrêté. Du coup, tu me disais à quel âge? À
14-15 ans. Et après, j'ai vu que la FFCP, qui était tenue par Marc Mercier, allait ouvrir une
grande légende française
du catch dans le 91 à Vissou.
Ouais. Donc moi j'ai tout de suite j'ai dit bah on va y aller. Et donc ça c'était en 2006 je crois, 2005 ou 2006.
Ouais.
Pour pas te dire de bêtises, et là j'ai repris les entraînements là-bas. Ils avaient un gros programme de catch academy, etc., etc. C'était vraiment cool. Mmh. J'ai fait des bonnes rencontres. Franchement, c'était un vrai bon délire et surtout c'était proche de chez moi. Et je me suis entraîné quelques années là-bas. J'ai fait peut-être un ou deux matchs pro.
Ouais.
Après, j'ai arrêté. Je me suis focalisé sur mes études. Donc entre 2006, 2008, 2009, je m'entraînais un petit peu de temps en temps. Après, je devais partir aux États-Unis m'entraîner. Okay. À San Bernardino, en Californie.
Ça va.
Mais ma mère m'a dit, Nadir, finis tes études.
Pardon, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je t'ai pas très très bien entendu.
Bien sûr. Je devais partir aux États-Unis en 2008,
okay.
Après mon bac. Mais ma mère m'a dit, écoute, finis tes études et ouais. Après tu fais ce que tu veux.
Le discours classique d'une maman qui veut le bien pour son fils, finalement.
Exactement. Et je l'ai écouté. Donc j'ai fait une classe préparatoire. Après j'ai fait une licence d'économie. Après j'ai fait une grande école de commerce. Et j'ai arrêté de pratiquer le catch. Mais à côté je faisais arbitre, je faisais speaker. Donc j'avais toujours.
Tu restais dans le milieu quand même.
Exactement.
Tu restais pas très très loin du milieu. Ok, très bien. Regarde, on a parlé de ta carrière dans le catch. On va parler un peu de tous ces moments-là clés dans ta vie et tout. Juste avant, on va se faire une petite pause musique et comme tous les lundis, c'est mes invités qui choisissent leur musique et je t'ai demandé de me choisir 5 morceaux à me diffuser. Et le premier que t'as décidé de diffuser, c'est le combat de continu de Ideal J. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi?
Bien sûr. Je suis un grand fan, moi, de la Massacre Free. Ideal J, Kerry James, DJ Mehdi, 113. J'ai toujours écouté la Massacre Free, donc que ce soit Intouchable. Enfin, tous les membres de la Massacre Free, j'ai toujours écouté, que ce soit dans mon adolescence ou encore à l'heure actuelle. Il y a encore pas très longtemps, hier, j'ai écouté CBR de la Massacre Free. Donc, c'est un parcours. Des fois, c'est des textes un petit peu forts. Des fois, c'est des textes un petit peu plus apaisés. Le sample là de Ideal J, le combat continue, ça vient de Music Bank de War, ce qui a été un gros tube dans les années 70. L'instru est folle, les paroles sont dingues, le flow est dingue et c'est une musique qui est motivante, qui donne envie de tout arracher et c'est pour ça que je l'ai sélectionné.
Eh ben j'ai rien à ajouter, on s'écoute le combat continue d'Ideal J sur IDFM Radio et on revient juste après. À tout à l'heure.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Allez, on est toujours avec Nadir Mohamedi, commentateur WWE Network sur IDFM Radio 98 FM, dans le 95 et ses alentours, sur le DAB+, en Ile-de-France, IDFM98.fr, sur le site internet et évidemment l'application IDFM Radio sur Android. Nadir, t'es toujours avec nous?
Toujours.
Super, on vient de s'écouter Ideal J avec Ideal J, je ne sais même pas comment. Alors moi je suis pas de la génération on va dire 94 comme on l'appelle. Je suis plus jeune que ça, mais c'est vrai que Ideal J de monuments, notamment DJ Mehdi, paix à son âme, et Kerry James, exceptionnel. Le combat continue, un morceau de 7 minutes presque. C'est juste énorme. On était sur ta carrière où tu nous expliquais voilà que t'avais fait l'école de catch, que t'avais arrêté, puis que t'avais repris, puis que là on est dans tes grandes études. T'es parti aux États-Unis, je crois que c'est ça.
Non.
T'es pas parti aux États-Unis. Non. Tu n'es pas parti parce que ta mère t'a demandé de finir tes études.
En fait, je devais m'entraîner au catch. J'étais en contact avec un mec qui s'occupait de la NWA et qui avait une école de catch à San Bernardino. À quelques heures de Los Angeles.
Ouais.
Et je devais partir en l'été 2008.
Ouais. Mais
ma mère m'a conseillé plutôt de finir mes études avant de partir.
Voilà, c'est ça.
Elle m'a dit, finis tes études en France. Après, d'une fois que t'as fini tes études, tu fais ce que tu veux. Et au final, je ne suis pas parti. Je suis parti en vacances à Miami. Et là-bas, j'ai rencontré Hulk Hogan.
Oh là, mais, alors pourquoi? Alors par contre, non mais dose l'émotion. T'as dit Hulk Hogan comme si tu m'avais dit j'ai rencontré Martine, je suis parti acheter une baguette. Et, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va vulgariser un peu parce que on est tous les deux dans notre élément à parler d'une passion qui nous réunit. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, même si je sais que ça me paraît très 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 peu probable que vous ne connaissiez pas Hulk Hogan qui est la plus grande légende du catch. Est-ce qu'on peut dire la plus grande légende?
Bien sûr.
Si on enlève André le géant, parce que bon, est-ce qu'on peut dire?
En fait, les deux, ben si, c'est la plus grande, puisqu'il y a le match dans les années 80, en 87, Hulk Hogan contre André le géant.
Ouais.
Hulk Hogan, il a changé le business. En fait, c'est grâce à lui en partie que le catch est devenu super populaire aux États-Unis et après en France, et avec ses apparitions au cinéma, avec ses apparitions dans les séries télé, avec ses apparitions dans la culture populaire.
Notamment avec le film Rocky 3, c'est ça? Si je me trompe pas.
Exactement. C'est exactement ça. Et après, même à la fin des années 90, il a été associé à Dennis Rodman, le grand basketteur de Chicago Bulls. D'ailleurs, il y a un reportage sur le Chicago Bulls qui est dispo là sur Netflix. C'est après un gros boom il y a 2-3 ans.
Yes.
On voit Hulk Hogan également dedans. Donc, il a révolutionné le business du catch sur plusieurs générations. Ce qui fait que bah, quand on parle de catch, n'importe quelle génération pense à Hulk Hogan.
Forcément. Je suis d'accord. Bon, il a fait des choses bonnes et des choses moins bonnes, mais ça reste quand même la plus grosse légende du catch. Et donc, du coup, toi, tu le rencontres à Miami. Donc, tu pars en vacances, en fait.
Je suis parti en vacances.
Et tu le rencontres comme ça?
En Espagne, ouais. Bah, non, alors, l'histoire est folle. Là, tu vas avoir de la pépite.
Allez, vas-y.
Parce que personne n'est au courant de l'histoire.
Ah, oh, j'aime bien.
Je devais partir en vacances en Espagne. Ça s'est pas fait.
Okay.
Au final, je prends un pote avec moi, je rabe les annonces sur Yahoo à l'époque et je trouve une location pas chère à Miami. Genre c'était 400€ le mois pour deux. Je dis allez, on y va.
Elle est belle.
Donc,
affaire.
Elle est super belle. Donc on part avec un pote, on avait quasiment pas d'argent, on commence à trouver, on commence à traîner sur Miami Beach, etc. Tout d'un coup, on rencontre une francophone marocaine qui travaillait à l'hôtel Victor.
Ok.
Et elle nous invite à une soirée privée. Elle dit bah il y a Hulk Hogan qui est là, qui dort à cet hôtel. Et je crois que c'était Chris Brown ou je sais plus qui a fait l'inauguration. Elle me dit Hulk Hogan est dans cet hôtel. Donc moi je retourne à mon appartement.
C'est
le lendemain je vais à la plage et j'ai totalement zappé parce qu'en fait d'une il y avait la soirée et deuxième élément l'hôtel de nuit ne ressemblait pas à l'hôtel de jour.
Donc t'étais du père en fait.
Il y avait l'éclairage tout ça. Donc je vais à la piscine, j'y vais à la plage.
Ouais.
Et après j'entends de la musique parce qu'au premier étage j'avais une piscine. Et dans ma tête je me dis je vais m'incruster avec mon pote. On était des rares.
Ouais. Dans l'hôtel. Mais tu sais cet aspect de ta personnalité là on met pas énormément de temps à trouver ça hein, sur Instagram. Vous descendez un peu sur l'Instagram de Nadir Mohamedi et vous voyez qu'il a passé des belles soirées quand même.
C'est exactement ça. Donc, on est à la plage, j'entends de la musique avec mon pote. Je dis, bon, on y va, on va gratter, on va voir ce qu'il y a.
Ouais.
Donc, on rentre, et là, la fille qu'on avait vue, qui nous avait invité la veille ou deux jours avant avec le propriétaire de l'hôtel,
ouais.
Il nous avait fait les petits plats dans les grands, et bref, il nous a dit, venez. Donc, nous, quand on rentre dans l'hôtel, j'avais totalement zappé que c'était cet hôtel-là.
D'accord.
Et quand je rentre dans cet hôtel, je retrouve la fille qui m'avait dit, bah, reviens, qui nous avait invité, etc. Et elle me dit, mais là, il y a Hulk Hogan qui est à la pool party et qui vient de partir. Il a fait une réservation pour venir manger ce soir.
Ah, le seul.
J'ai dit, ok, bouge pas. Donc, nous, on retourne dans notre studio avec mon pote. On met nos costumes Zara. On croyait qu'on avait la classe, mais tu regardes la tête du costume, tu rigoles.
Ah, le col décollé, tout ça. Oh là là. Ah, les pseudo-mafieux de Miami.
Hein?
Aïe, aïe, aïe. Les pseudo-mafieux de Miami, je disais.
Ah, ça ressemble à rien. Ah bon, donc on retourne à l'hôtel et là il y a Hulk Hogan donc qui finit son dîner et t'as la nana, la fille en question qui me le présente.
Ok.
Voilà, elle dit c'est un ami, si ça, donc j'ai parlé un petit peu avec lui, je lui disais que je faisais un peu de catch, ça, très sympathique. On a pris une photo avec l'appareil photo digital de l'époque Canon,
oh,
et j'ai la photo qui traîne sur euh, sur mon, je crois, sur un vieux Facebook, enfin, il faut que je la retrouve. Et donc, j'ai pris une photo avec lui, j'avais parlé un petit peu avec lui.
Ok.
Et voilà. Et donc,
est-ce que cette rencontre, du coup, cette rencontre, évidemment, t'a marqué dans ta vie, forcément, en tant que passionné, mais est-ce qu'elle a influé dans ton futur?
Franchement, influé dans le futur, non, ce serait forceur de dire oui. Maintenant, le voir, le rencontrer, etc., etc., quand t'es un fan de catch,
c'est l'apothéose.
Ça te chamboule. Voilà, surtout que tu le rencontres entre guillemets par hasard.
Ouais, c'est fou. Est-ce que c'est fou qu'une dame qui ne sache pas que tu sois fan de catch te dise, il y a Hulk Hogan à la soirée, vous voulez venir? Ça, c'est incroyable.
Franchement, c'est le destin. C'est des trucs qui sont comme ça. Et on est arrivé pareil. On est arrivé dans cet hôtel, dans cette soirée.
Non, mais déjà,
on marchait dans la rue.
Qui devait aller en Espagne et en guise de remplacement va à Miami? Qui fait ça? T'as la classe, t'as la grande, grande classe. Et donc du coup, tu fais ta petite vie après les études, donc tu profites énormément. Mais moi, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Parce que on va pas se mentir, moi j'ai été un enfant de la génération Catch Attack. Pour ceux qui ne savent pas, Catch Attack, c'était l'élan de popularité du catch en France comme on n'a jamais vu. C'était aux alentours des années entre 2008 et 2010, on va dire ça comme ça, où vraiment le catch a eu un élan de popularité comme jamais finalement. Et depuis, j'ai été piqué. Et c'est vrai que on te connaissait pas tant que ça. Jusqu'à l'arrivée du network. Comment jeune Nadir Mohamedi, ancien élève de catch, ancien arbitre, ancien buveur de verre avec Hulk Hogan, il s'est retrouvé dans une cabine avec Christophe Ajus? Comment ça s'est passé tout ce parcours-là?
L'histoire, elle est pas plus compliquée que ça. Elle est à la fois plus compliquée, plus simple. D'ailleurs, Philippe Chéron en parle à l'heure actuelle sur AB1, sur AB Explore. Tous les jeudis, il y a une diffusion de ce qu'on appelle WrestleMania 40 ans d'histoire. Donc, la première a eu lieu jeudi dernier pour la France, dimanche d'avant pour la Belgique.
Yes.
Et sur l'une des prochaines émissions, où je serai invité avec Rivenzi et donc comme animateur Philippe et Christophe, ils vont expliquer justement toute l'histoire, pourquoi, comment je suis arrivé.
Comment lui, est venu au milieu de ces deux mastodontes? Comment c'est possible?
Comment je suis arrivé comme ça? Mais je vais vous donner un indice. Je vais te donner un indice, c'est là. Avant de regarder ça, c'est qu'en fait, à l'âge de 13 ans, aux 12-13 ans, j'appelais RTL 9 et je disais, je veux des cadeaux. Donc j'appelais, et le mec, au bout d'un moment, il m'avait envoyé un truc, Vincent Godel, c'est une très bonne personne, un ami. Et après, j'ai dit, mais est-ce que je peux venir voir les commentateurs commenter?
Ok.
Il m'a dit, ouais, si tu veux. Et donc, j'ai commencé à rencontrer Philippe et Christophe, comme ça, à l'âge de 13 ans.
D'accord.
Et donc, j'allais les voir en cabine. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait un stage, quand je faisais mes études dans ma grande école de commerce à Marseille, sub de commerce et quel. Je devais faire après un stage.
Ouais.
Donc, j'ai contacté AB1, RTL9, le groupe AB à l'époque. J'ai fait mon stage là-bas. J'ai vu que être en stage où tu devais faire des plannings, si ça me rendait totalement fou. Mais il y a un petit programme qui avait été produit et par le groupe AB qui s'appelait Catch Off.
Ouais.
Et donc, pour éviter de passer des après-midi derrière l'ordinateur, je faisais le figurant.
Putain, je me rappelle de ce format court.
Voilà.
Je me rappelle où il y avait la femme de et je me rappelle qu'il y avait en personnage, il y avait la femme de Philippe, il y avait l'arbitre et tout, non?
Exactement.
Ah, c'était exceptionnel. Et je crois que c'est dispo encore sur YouTube. Allez trouver ça.
Et de base, on m'avait proposé de faire l'arbitre. De base, je devais faire l'arbitre. Mais
okay.
Je te jure que c'était super vrai. Donc, à l'époque, la personne qui était directeur de programmation me dit, Nadir, est-ce que tu veux faire l'arbitre? Il y a un truc qui pourrait matcher pour toi. Sauf que, étant donné que mon contrat de stage était de août à février et que eux comptaient faire ça après,
ouais.
Ils se sont dit, Nadir, on va lui donner un plus petit rôle parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir, ils ne savaient pas si j'allais être là encore en février.
Ok.
Voilà.
En fait, t'as loupé de peu à cause de ta convention de stage, en fait.
Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal.
Après, commencer sur un rôle d'arbitre humoristique, il y a mieux comme début. Il y a mieux comme début de carrière. et donc, ouais. Du coup, en fait, t'y es allé au culot, en fait.
Mais bien sûr. Je me suis dit, j'ai quoi à perdre? Et pareil, quelques années avant, j'ai appelé Comédie. J'avais rencontré les Robin des Bois, j'avais rencontré Cyril Hanouna, j'avais rencontré tout le monde à Comédie.
En fait, t'étais juste passionné de divertissement, en général.
J'étais devant la télé non-stop.
Ouais, voilà. T'es un enfant de la télé. Ok.
C'est pas le cinéma, c'est pas les trucs, c'est la télévision. Depuis que je suis petit, je regarde la télé. Depuis que je suis petit, je regarde la télé, je kiffe la télé.
Alors, ça m'étonne pas que tu dises ça, mais tu sais, il y a beaucoup de similitudes entre toi et moi, et je le remarque, parce que moi aussi, je suis un gosse de la télé, et il y a une émission sur laquelle on a un point commun que j'ai vu sur ton Twitter. Alors j'ai dû descendre sur ton Twitter. Il y a un moment donné où t'as fait une phase sur le Big Deal.
Mais le Big Deal avec Bill. J'ai arrêté les parties de foot en bas de chez moi pour remonter à 19h. Les gens, ils craquaient sur moi. Mais toi, ils craquaient sur moi.
Anecdote personnelle, j'ai pleuré à la dernière du Big Deal quand j'étais enfant. Anecdote personnelle. Ouais, vraiment.
Ah ouais.
Vraiment, moi, j'étais un fan. Vraiment, un fan inconditionnel. Donc, du coup. Ah non, c'était incroyable. C'était incroyable.
Le rideau.
Qui n'a jamais chanté le rideau?
La botte de poireau, la voiture.
Et puis quel animateur aujourd'hui, Vincent Lagaffe, quel homme humble. J'ai eu la chance de le rencontrer et quel amour incroyable. Du coup, ton culot, regarde la transition toute faite. Ton culot t'a porté chance, car aujourd'hui tu as trouvé. Ouais. Tu l'as la transition.
Ouais, j'ai à peu près, ouais.
Ouais.
J'ai à peu près, mais redis-moi encore un peu plus.
Ton culot t'a porté chance parce que aujourd'hui t'as réussi à avoir, entre guillemets, ce que tu voulais. Et en parlant de chance, on va passer à la prochaine musique.
Ok.
La prochaine musique que t'as décidé. Que tu as décidé, et c'est encore une musique de toute, on va dire, la génération 94, et c'est en même temps un hommage, je pense, de ta part, si je peux me permettre. On va écouter du DJ Mehdi avec Lucky Boy. Est-ce que tu peux nous en parler deux minutes?
Évidemment. Bah, en fait, quand j'écoutais, c'est la prolongation, en fait. Le prolongement, pardon, de Ideal J, DJ Mehdi qui a produit pendant de longues années du rap. Il a produit beaucoup de sons de rap, des grands classiques.
Ouais.
Et après, il a enchaîné vers un petit peu de l'électro. Il a enchaîné vers l'électro avec le groupe Headbanger, etc., etc. Et donc, j'écoute du rap, j'écoute de l'électro, j'écoute un peu beaucoup de choses. Et DJ Mehdi, c'est le premier qui m'a frappé la tête avec cet album Lucky Boy que j'adore. Et donc cette chanson Lucky Boy, c'est celle que j'écoute d'entre mes 18 ans et je peux encore l'écouter à l'heure actuelle. Donc vraiment, c'est toujours DJ Mehdi me suit, en fait. En plus, je porte le même prénom que mon frère. Donc ça pousse un peu les choses. Donc Lucky Boy, c'est Lucky Boy, tout simplement.
Et comme pour Ideal J, j'ai rien à ajouter. Tout de suite sur IDFM Radio, restez branchés. On s'écoute Lucky Boy de DJ Mehdi et on revient juste après. À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Allez, on est de retour avec Nadir Mohamedi sur IDFM Radio. Vous êtes bien branchés sur le 98 FM, dans le 95 et ses alentours, sur IDFM 98.fr et l'application Android sur vos appareils, smartphone, ordinateur, tablette, enfin peu importe, et sur le DAB+ dans toute l'Île-de-France. On est toujours avec mon invité exceptionnel que je suis très content de recevoir, Nadir Mohamedi, commentateur sur le WWE Network, la plus grande plateforme de streaming de catch au monde, de la plus grande compagnie de catch au monde. Comment ça va? Ça va toujours?
Ça va toujours. Bonne compagnie, bonne musique, bonne question, passe un bon moment, bien sûr.
Ça me fait énormément plaisir ce que tu es en train de me dire. Arrête, je vais rougir.
Il faut.
c'est bien un peu de temps en temps de se faire flatter, j'avoue. On en était à ton culot. Où tu disais donc du coup que de par ton culot, de par tes demandes de stage, de par petit à petit gratter un peu de terrain, tu l'as un peu fait comme ça. T'es arrivé à être commentateur remplaçant pour les absences des différents collègues sur les chaînes du groupe Media One, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. En fait, au tout début, j'avais passé un casting pour commenter la Lucha Underground. La Lucha Underground, c'était une structure ouais. Qui mélangeait un petit peu. En fait, c'est pas le même réalisateur que Sin City, il me semble, si je dis plus de bêtises.
Ouais.
Son nom. Donc, en gros, ça avait, les droits avaient été achetés par la chaîne Action. Et la chaîne Action appartenait et appartient toujours au groupe Media One.
Yes.
Donc, j'ai appris qu'il y avait des castings, et j'ai appelé, puisque j'avais été en stage quelques années avant dans ce même groupe, et j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, faites-moi passer les castings. Donc, j'ai passé les castings, ça s'est bien passé.
Et comment ça se passe, un casting?
Un casting, c'est simple. Ils te mettent dans une cabine.
Ouais.
Ils te mettent un programme pendant 10 minutes. Ils t'écoutent. Si on doit refaire des prises, on fait des prises. Et après, ciao, bonsoir, on vous rappellera.
Ah, c'est vraiment, ça passe vite, quoi. En 15 minutes, c'est plié.
Mais même pas.
Oh, même la pas. Pression en fait, de dingue.
Et j'ai l'impression que plus le casting est long, plus pourri ça va être. Moins.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, plus t'as de temps de te foirer, moins ça va être bien.
C'est ça, et ça veut dire surtout que tu te laisses plusieurs fois ta chance. Ça veut dire que dès le début, ils n'ont pas ce qu'ils veulent.
C'est vrai.
Après, ils envoient ça au directeur de chaîne. Donc, ils ont plusieurs versions. Version 1, version 2, version 3.
Ouais.
Et on regarde qui on garde et qui on ne garde pas.
Et on a gardé le petit Mohamedi.
Le petit Mohamedi,
on l'a gardé. Et donc, du coup.
Le petit Mohamedi, voilà. Exactement. Donc, j'ai commencé la Lucha Underground.
Ouais.
Et comme pareil, et c'est là encore le sort, c'est que je crois que, là, en fait, j'avais commenté la Lucha Underground, mais la diffusion devait être en mai.
Ok.
Et en gros, je crois que Philippe et Christophe devaient partir en urgence aux États-Unis pour WrestleMania parce que ça s'est fait ça s'est fait vite.
Donc, avril.
Exactement. Donc, en réalité, j'ai commenté la WWE avant d'officiellement commencer
la classe. Ah la classe. Non, ça, c'est la classe.
Mais c'était une galère. Parce que si je retrouve l'émission, je crois que c'est. En fait, j'avais commenté, donc en remplacement, c'était un SmackDown et un Main Event avec Ishtu, qui est aussi faisait des remplacements. Et c'était la première fois que je commentais une émission WWE.
Deux premières, en fait.
Exactement. Et surtout que. C'est compliqué parce que d'une, j'avais pas l'expérience. Deuxièmement, je connaissais pas trop Ishtu, donc je savais pas trop sur quel pied danser. Je savais pas quand. Je pense que si on réécoute l'émission maintenant, on rigole.
Faudrait la retrouver. Tu l'as en ta possession, toi, l'émission?
Non.
Oh, le mytho.
Je l'ai pas. Mais je te jure, je l'ai pas. Non, je te jure, je l'ai pas. On doit l'avoir sur une vieille Freebox que j'ai dû rendre depuis. Mais, c'était 2017. De toute façon, c'est simple. C'est le dernier SmackDown avant WrestleMania en 2017.
Putain, c'est un gros SmackDown. C'est vraiment
Même pas, puisque c'était une version raccourcie et t'as que des rediffusions ou t'as que de la promo.
Ah
donc,
ouais.
C'est pas l'énorme SmackDown. C'est pas le SmackDown à l'époque n'avait pas la même ampleur que SmackDown à l'heure actuelle.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que depuis. Bah tiens, c'est marrant que t'en parles. On va peut-être plus rentrer dans le dur. Quelle évolution du catch en France? C'est quand même assez fou là depuis. Moi, je le ressens depuis un peu 2 ans. On dirait qu'il y a un nouvel élan de popularité dans le catch. Je sais pas ce que toi t'en penses.
Évidemment. Alors on va partir sur le positif. Évidemment, positif, c'est qu'il y a plus de temps d'antenne à la télévision. Il y a des PLI qui viennent en France, donc on va avoir WWE Backlash.
Oh, ça va être exceptionnel. On va en parler après.
La première fois de l'histoire qu'on va avoir un PLE, ce qu'on appelait anciennement un pay-per-view, maintenant un PLE, c'est Premium Live Event,
yes.
À la LDLC Arena de Lyon-Décines. La veille, on va avoir le premier show télévisé de la WWE en France, SmackDown. Et le lendemain de Backlash, donc 3 à 4, donc le 5 mai, va y avoir un autre show à Aix-en-Provence.
C'est exceptionnel.
Donc on est gâtés. En matière de télévision, Reda, on est aussi gâtés, puisque à l'époque où moi je regardais, il y avait 6 semaines de décalage entre les États-Unis.
Ouais, je m'en rappelle. Alors moi, ma génération Catch Attack, c'était 2 semaines.
2 semaines, exactement. Ouais. Maintenant, quand Raw est diffusé le lundi aux États-Unis, c'est diffusé le mercredi, donc c'est 48 heures après. Et pour SmackDown, c'est même pas 24 heures.
Ouais, c'est même pas 24 heures. Diffusion,
c'est ça. La fin de la diffusion heure française, c'est 4 heures du matin, et à 20h55 sur AB1, sur AB Sport, il y a SmackDown. Et en plus, maintenant, on a NXT en intégralité, toujours sur les chaînes du groupe Media One. Donc, on est bien lotis. Pareil, il y a le retour des figurines. qu'on n'avait pas retrouvé depuis longtemps. Je crois que ça fera de la pub chez Smith. Mattel revient avec des figurines alors qu'on n'avait pas vu des figurines dans les magasins français depuis pas mal de temps. Donc il y en a un goût, mais il y a les jeux Touquet bien sûr qui fonctionnent extrêmement bien en France. Donc,
le dernier qui vient de sortir là, que j'ai essayé, exceptionnel hein, le dernier. Alors je sais pas. Oui. Alors on peut se retrouver sur Twitch d'ailleurs. Vous savez quoi? Je fais ma promo. Reda BYB. Je suis en ce moment en train de faire ma faction sur Touquet 24. Exceptionnel. Ah, exceptionnel.
J'ai resté un coup d'œil.
Ah ouais, c'est exceptionnel. Ah non, mais je suis comme un enfant. Ah, je suis comme un gosse.
Bref. Donc ouais, pour reprendre ta question, oui, tout va très bien. C'est super ce qui se passe, mais on va voir ce que l'avenir nous réserve en espérant que ça continue.
Ouais.
C'est toujours cyclique hein, le catch. Donc faut espérer que ça continue sur cette lancée.
Là, en ce moment, en tout cas, je sens un énorme buzz autour de la grosse rivalité qu'il y a en ce moment. Faut savoir que le plus gros événement de l'année arrive là à la fin du mois, au début du mois d'avril, le 5 et le 6 avril. Ouais. Le 5 et le 6
et 7.
Le 6 et 7. Pardon. Non, mais je suis trop pressé en fait.
Je sens ton excitation.
Attends, je me rattrape. Et le 9 et 10 à 20h55 sur AB1. C'est ça?
Exactement ça.
Voilà, c'est ok.
Exactement ça.
Donc je me suis bien rattrapé, ça va.
Il y a deux diffusions. En fait, aux États-Unis, il y a samedi, dimanche, donc en direct, et ce sera en exclusivité en direct, en français, sur le WWE Network.
Ouais.
Et 48 heures après, il y aura une rediffusion, cette fois-ci du côté d'AB1 et d'AB Explore. Donc en direct, vraiment, sur le WWE Network, commenté en français. Et après, 48 heures plus tard, commenter avec Philippe Chiraud, que ça pas juste sur AB1 et sur AB Explore.
Et ça va être exceptionnel parce qu'il y a une grosse rivalité qui implique 4 énormes mastodontes du catch, mais on va pas en parler tout de suite. D'abord, on va s'écouter un peu de musique parce qu'on parle beaucoup. Mais c'est pas que c'est ça de passionné. Il nous reste un quart d'heure d'émission et on a diffusé que 2 musiques. C'est pour vous dire à quel point on parle beaucoup, mais c'est ça qu'on aime au final. Écoute, on va s'écouter Dynasty. Ça te branche?
Allez, c'est parti.
Tu nous as choisi Stroking de Dynasty. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots là, en rapide?
Exactement, c'est de la funk, donc on est sur des choses beaucoup plus légères, des sons, un sample qui a été utilisé après par DJ Mehdi, donc ça devient par rapport à la deuxième chanson sur son titre Signatune. L'instru est folle, la fin, le solo est dingue, et bah régalez-vous et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je vais faire plus court.
Et bah vole mon taf, voilà. Allez, on va s'écouter Dynasty Stroking, parce que j'ai plus rien à ajouter, il est excellent en fait. Donc on s'écoute Dynasty Stroking sur IDFM Radio, ouais, on revient juste après, à tout à l'heure.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Allez, on est de retour avec Nadir Mohamedi sur le WWE Network. sur IDFM Radio, 98FM dans le 95 et ses alentours. Sur le DAB+ en Ile-de-France, IDFM98.fr et l'application Android, bien évidemment. On est avec Nadir Mohamedi et mon lapsus n'est pas anodin car il est commentateur, il est Mister même. On va l'appeler par comment on l'appelle, Mister WWE Network. C'est le commentateur officiel du network de la WWE, la plateforme de streaming. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. C'est la dernière partie de l'émission. Il nous reste à peu près 3 minutes à partager ensemble. On va aller très rapidement. WrestleMania arrive, le plus gros événement de l'année, le Super Bowl du catch, notre Champions League à nous. C'est maintenant. C'est là.
Allez. Ça y est, bah oui, c'est dans quoi, 3 semaines? C'est dans 3 semaines, dans la nuit, dans les nuits, parce que c'est sur de nuit, Reda.
Oui.
C'est dans la nuit du 6 au 7, puisqu'il y a un peu décalage horaire, c'est 19h aux États-Unis, donc on rajoute 6h, ça fait 1h du matin dans la nuit, le samedi au dimanche, et le lendemain, le WrestleMania du dimanche, donc dans la nuit du dimanche au lundi, à 1h du matin, dans la nuit donc du 7 au 8 avril, en direct sur le network WrestleMania 40. Là, je suis bouillant, je suis très chaud.
Quelle carte Non, mais là ils ont mis tous les moyens possibles et inimaginables. Ils le vendent comme le et ils le vendent pas en fait. Ils ont même pas besoin de le vendre parce que ça va peut-être être le plus gros WrestleMania de tous les temps. On a deux soirs avec deux main events exceptionnels. On a, pour le premier soir, Monsieur Seth Freakin' Rollins, le champion du monde poids lourd, en team avec Cody Rhodes, l'aspirant numéro 1 au titre indisputé universel, contre la Bloodline. Roman Reigns, le chef tribal, our tribal chief, notre chef tribal, qu'on doit reconnaître toutes et tous. Et son cousin, que vous connaissez peut-être sous le nom de Dwayne Johnson, mais que chez nous on appelle The Rock.
Ah, exactement. Exactement. Gros match par équipe avec une stipulation très importante. Si Cody Rhodes et Seth Freakin' Rollins remportent le match, la Bloodline n'interviendra pas dans le match de championnat le lendemain entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Si Roman Reigns et The Rock Dwayne Johnson remportent ce match, le match de championnat du lendemain, qui sera un match simple, je le rappelle, Cody Rhodes contre Roman Reigns, sera un match qui sera dicté par la Bloodline selon les règles de la Bloodline. Mais ça, c'est très important, ça. Deux matchs à enjeu.
Ils appellent ça un Bloodline match, même je sais même pas à quoi m'attendre. J'ai le même sentiment qu'à l'époque, quand on a eu le malheureusement regretté Bray Wyatt, paix à son âme, le Firefly Funhouse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je me dis, qu'est-ce que ça peut être un Bloodline match, en fait?
Mais c'est ça, c'est que tout est possible, et c'est la force de la WWE, c'est la force de WrestleMania. Si on sait pas de quoi demain est fait, on sait pas de quoi WrestleMania sera fait. Donc, la seule chose, ça va paraître un petit peu basique ce que je vais dire, mais c'est de le vivre. Le vivre en direct, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir toutes les émotions, pour comprendre tout ce qui va se passer, et surtout ne pas se faire spoiler sur les réseaux sociaux, le lendemain, et vivre ça en direct, parce que c'est comme le Super Bowl, c'est comme la Champions League, ça se regarde en direct.
Ah ouais, vraiment, vraiment. Donc, branchez-vous 1h du matin sur le WWE Network les 6 et 7, c'est ça? Je me trompe toujours pas?
Exactement, 6 et 7.
6 et 7, 1h du matin. Samedi et dimanche. Et prenez votre lundi de congé. Parce que vous allez pas pouvoir vous relever tout de suite de ce qui va vous arriver dans la tronche. Parce que au niveau divertissement, c'est exceptionnel. J'ai même pas de mots tellement ce qui nous attend là. Et c'est en direct de Philadelphie. D'ailleurs, on l'a pas dit. C'est le 40e anniversaire. On peut attendre des choses exceptionnelles. Évidemment, il y a pas que ce match-là, que ces deux matchs-là. On a un match pour le titre poids lourd entre Drew McIntyre et Seth Rollins. On a un match pour le titre intercontinental entre Gunther et Sami Zayn. On peut attendre énormément de choses là de ce WrestleMania. Toi, t'as des attentes particulières par rapport à cet événement?
Franchement, c'est comme quand je pars en vacances. Je veux pas avoir d'attente. Je veux vivre le truc. Je veux être à l'instant T. Je veux être dans les meilleures conditions possibles. Et je veux que les gens en parlent. Que les gens en parlent au max en France, que ça tweet dessus.
Et ça commence déjà. Ça commence déjà.
Exactement ça, que la France vraiment ait les yeux sur WrestleMania pour mieux anticiper, pour mieux aborder Backlash qui sera un PLE qui aura lieu en France le mois d'après.
J'ai pas mes places et je suis tellement triste. Et pourtant j'y étais le matin à 10h du matin à essayer de trouver une place et j'ai pas pu. Mais je verrai ça sur le network parce que je pense que on peut s'attendre à vous avoir ringside ou pas?
Ah, ça c'est une bonne question. Pour le moment, je n'en sais absolument rien. Pour le moment, la WWE met toute son énergie sur WrestleMania.
Évidemment.
Il y aura des réponses un petit peu après. WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. Donc, priorité à WrestleMania. Pour le moment, moi, je n'ai absolument aucune nouvelle. Je n'en sais absolument rien. Ça se fait. Tant mieux. Ça se fait pas. Et tant pis. On aura quand même le sourire.
On aura quand même deux soirs exceptionnels en direct de Lyon, des Cines. De la LDLC Arena, c'est ça? LDLC Arena, c'est ça. De Lyon des Cines, Nadir Mohamedi était avec nous dans le carré des artistes aujourd'hui sur IDFM Radio. Vous pouvez, je vais faire ta promo, comme ça on va aller vite. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, Nadir Mohamedi, tout attaché. C'est simple comme bonjour, comme lui, une personne simple mais rayonnante. Sur les réseaux sociaux. Tous les mois environ sur le network, tous les jours sur le Instagram WWE France, parce que tu animes des formats courts qui sont WWE Now et autres. sur le compte Instagram de WWE France et pas que, je crois les autres réseaux aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que t'as des projets? Si t'as des mots à dire, c'est ton moment.
Non, c'est gentil. Non, les projets, non. Franchement, on va continuer. Les gens, je me focalise sur ce qui va se passer là prochainement. Après, comme je dis à chaque fois, s'il doit arriver, arrivera. S'il ne doit pas arriver, n'arrivera pas. Des projets, pour le moment, j'en ai pas forcément. J'ai quelque chose, j'ai deux, trois trucs qui tournent en tête. Mais ce serait trop prétentieux, prématuré d'en parler, de dire que ce sont des projets. C'est juste des petites graines que j'ai en tête. Rien vraiment de très abouti.
Eh ben écoute Nadir, merci infiniment d'avoir été avec nous. On va te suivre évidemment sur le network de la WWE le 6 et 7 avril prochain sur le network. Ça, pour ceux qui se posent la question, c'est le prix d'un compte Netflix. Comme ça, vous êtes pas étonnés. Non, ce n'est pas cher. Et franchement, pour ce que vous allez vous prendre dans la tête, franchement, 11€ quelque chose, c'est rien comparé à ce que vous allez prendre comme émotion. Toutes les émotions vont se mélanger, ça va être exceptionnel.